Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, la dernière de la semaine. J'espère que ça vous rend heureux ce week-end qui s'en vient. Marianne Paquette au micro pour cette dernière de C'est bon pour la santé. Vous écoutez Canal M. Je ne sais pas si, comme moi, vos parents vous ont raconté qu'ils allaient à l'école à pied. Moi, mon père le faisait. Bien sûr, ça a bien changé hein, avec les années. Au Québec, les enfants sont de moins en moins nombreux à se rendre à l'école à pied. En 2010, la proportion d'enfants de 6 à 12 ans qui marchaient entre la maison et l'école était passée de 34 %, donc relativement faible. Et ça, c'est les chiffres de la Société canadienne du cancer. Le projet national Trottibus, ça encourage les enfants. C'est un projet national hein, qui encourage les jeunes du primaire à marcher jusqu'à l'école et tout ça en leur offrant un service d'autobus pédestre. L'objectif, bien sûr, il est évident, c'est de favoriser la santé de nos jeunes en les faisant bouger plus. Mais il y a aussi, en fait, ce projet-là répond à des besoins qui sont peut-être un petit peu plus subtils, comme de contrer l'isolement de certains parents, l'absentéisme des écoliers, de favoriser aussi la sécurité des petits, hein, parce que bon, l'activité est encadrée, donc l'enfant part et le parent n'a plus à se soucier de son enfant, et également de favoriser les liens intergénérationnels. Donc, c'est une initiative qui est très intéressante, très novatrice également en termes de transport actif, et tout à l'heure, j'en parlerai davantage avec Véronique Galland, elle coordonnatrice de Trottibus. Et puis, vous dire que handicap visuel, ça rime pas nécessairement avec perte d'autonomie ou encore avec l'incapacité de faire les activités que l'on aime. Bien souvent, l'utilisation d'appareils fonctionnels qui sont tout simples ou encore une légère modification de l'activité ou de l'espace de travail, ça va faire en sorte que la déficience visuelle ne va pas empêcher de faire ce que l'on aime. À la fin du mois, l'INCA propose une deuxième année, l'atelier Cuisinons ensemble et j'en parle avec l'instigateur du projet et celle qui l'encadre, Jean-Sylvain McGreevy et Andréanne Lemaire. Bonjour à vous deux.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour Jean-Sylvain. On vous joint du côté de Saint-Jérôme, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, Saint-Jérôme.
Il fait pas trop gris là-bas?
Oh non, non, c'est quand même une belle journée.
Andréanne Lemaire, vous êtes kinésiologue au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Jean-Sylvain, je le disais tout à l'heure, instigateur des ateliers Cuisinons ensemble. J'imagine qu'il faut être soit bon cuisinier ou encore un gourmand pour initier ce genre de projet.
Non, il faut juste être, je crois, attentif dans qu'est-ce qu'on fait, parce que moi, je suis animateur bénévole pour INCA depuis 4 ans et demi, et au fil des ans, ben, je me suis aperçu que les gens avaient peur de cuisiner. Donc, il est vrai pourtant que dans mon ancien métier, j'étais cuisinier. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là pour que les gens apprennent qu'une cuisinière, ce n'est pas un gros monstre dans le fond de la cuisine.
Jean-Sylvain, c'est important, je pense, de souligner que vous vivez vous-même avec un handicap visuel.
Oui, moi, je suis en cécité complète.
D'accord. Et ça vous permettait quand même de faire le métier de cuisinier?
Non, non, non. J'ai pris ma retraite il y a 6 ans. Quand j'ai perdu la vue.
Mm-hmm. Andréanne, oui. Ou peut-être Jean-Sylvain, en quoi consiste l'atelier Cuisinons ensemble?
Bien, l'atelier est sous forme de 4 rencontres. Une première rencontre avec un volet plus nutritionnel. Nous avons une diététicienne nutritionniste qui vient faire une conférence et répondre aux questionnements de nos participants. Mm-hmm. La deuxième rencontre est une entrevue avec un spécialiste en réadaptation visuelle du Centre de réadaptation Le Bouclier dans les Laurentides. Et le volet 3 et 4 sont des rencontres où on partage des recettes que j'ai standardisées pour INCA et qu'on distribue à nos participants. Il y a toujours aussi des échanges et des trucs et astuces dans la cuisine.
Andréanne Lemaire, pourquoi c'était important de s'associer avec l'INCA afin de mettre sur pied cet atelier-là?
Mais en fait, après avoir reçu la demande, nous nous sommes dit, bien, pourquoi pas intervenir finalement, demander à notre nutritionniste d'aller faire l'atelier numéro 1 sur les saines habitudes de vie, finalement, l'alimentation, donner des trucs, des conseils, puis mettre aussi l'emphase sur peu importe l'handicap qu'on a, peu importe notre condition physique ou mentale, il est important de bien s'alimenter puis d'avoir le message. Donc, c'est pour ça qu'on s'est finalement joint au programme au projet d'INCA pour pouvoir finalement faire notre message. Nous, on est un programme Oser la santé qui est au CLSC même de Verdun. Puis, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie. Donc, tout à fait, là, avec cette clientèle-là qui, habituellement, on n'a pas nécessairement l'occasion d'y rejoindre. Oui. C'est une très belle opportunité pour nous d'intervenir.
De créer
finalement.
Le contact également. Jean-Sylvain, lorsque l'on vit avec un handicap visuel, à quelles difficultés on est confronté lorsque vient le temps de cuisiner?
Ben, c'est qu'on ne voit pas les choses, donc il est un petit peu plus difficile d'avoir une rapidité d'exécution. Donc, il faut être beaucoup plus prudent, il faut prendre son temps et utiliser les bons objets pour faire notre cuisine.
Oui. J'imagine, Andréanne, que la sécurité, c'est un aspect important, il fallait y réfléchir.
Tout à fait, tout à fait. C'est certain que la nutritionniste avec qui je travaille et moi-même, nous n'avons pas de problème là, au niveau de la vue. Donc, c'est moins, on est moins rejointes par ça. Donc, je trouve intéressant que justement l'investigateur et qu'il y ait d'autres intervenants là, pour aller plus spécifiquement sur cet aspect-là, mais tout à fait, là, pour vouloir donner le goût de reprendre, sûrement, Jean-Sylvain, pouvait le confirmer, il faut faire attention puis avoir du plaisir à travers cette activité.
Oui, parce que c'est important de le dire, Jean-Sylvain, l'atelier Cuisinons ensemble revient pour la deuxième année du côté de l'INCA. Bon, donc j'imagine qu'il n'y a personne qui s'est brûlé, personne s'est coupé lors de l'année dernière.
Bien, probablement pas. C'est certain que nous, les participants que nous rejoignons, bon, c'est des participants qui, pour la plupart, ne font que cet atelier-là par année. Donc, nous n'avons pas un certain suivi par la suite. Sauf que cet atelier a eu un impact véritable sur les gens du monde de la déficience visuelle, parce qu'on avait déjà une liste d'attente pour la prochaine session de Cuisinons ensemble.
À quoi est dû, vous pensez, le succès de l'atelier?
À un réel besoin des gens. À un réel besoin de se faire dire « Oui, vous êtes capable. Oui, c'est possible de cuisiner. Oui, c'est possible de bien manger. » Et non, il ne faut pas avoir peur. Parce que si moi, en cécité complète, je suis capable de me faire des repas et des bons repas, eh bien, tout le monde est capable.
Et j'imagine aussi que ça favorise à quelque part les liens. Des gens se réunissent ensemble, vivent une réalité qui est semblable à cause du handicap, mais en même temps partagent la passion ou le désir de cuisiner.
Oui, c'est certain, parce que ceux qui y participent, c'est parce qu'ils ont un intérêt à la cuisine. Donc, autant par les recettes que je leur propose que les interventions, soit de la nutritionniste ou du spécialiste en réadaptation, tout le monde a un besoin de connaître des choses et ça les intéresse.
Oui. J'aimerais revenir sur comment on adapte une cuisine afin que ça soit fonctionnel, sécuritaire pour une personne qui vit avec un handicap visuel. Andréanne ou encore Jean-Sylvain, à quoi vous avez pensé pour que tout ça soit rendu possible?
eh bien, il est certain que sur la cuisinière, ça prend des boutons repères autour des fameux boutons là, de la cuisinière. Et on peut mettre aussi des espèces de petits boutons autour du bouton pour le four. Donc, tout est juste à enligner le bouton où on veut, et là, on a le bon degré désiré. Donc, c'est un des premiers aspects. Mm-hmm. Et aussi, en sécurité, ben, il est important d'utiliser les deux éléments chauffants au fond de la cuisinière.
Ah, ben oui.
Sur le dessus, mais au fond, pour ne pas... accrocher mm-hmm. les manches ou les poignets et avoir des vêtements pour cuisiner, donc des manches serrées ou des manches que l'on peut relever pour avoir les avant-bras libres et pour pas que on se brûle sur un rond de la cuisinière.
Mm-hmm. Quelque chose à ajouter?
Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile quand on ne vit pas, finalement, ouais. cette réalité-là, de se mettre à la place des gens, finalement, mm-hmm. qui sont en société complète, finalement, comme Jean-Sylvain, finalement. Donc, j'aime beaucoup entendre là, les réponses de cet homme. Donc, merci beaucoup. Puis, en fait, oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a une autre réalité qu'on peut s'adapter, qu'on peut... trouver des trucs, trouver des moyens avec, justement, Cuisinons ensemble, d'aller chercher de l'information à travers ça, puis de dire c'est pas impossible, tout est possible en arrière de ça. Puis c'est de trouver, justement, des moyens pour mm-hmm. que ça soit sécuritaire et agréable.
Jean-Sylvain, comment on fait pour identifier les ingrédients? Est-ce que vous avez des trucs par rapport à ça?
Oui, oui, parce qu'il existe pour les personnes handicapées visuelles un instrument qu'on appelle un pen friend. Je m'excuse pour le nom qui est en anglais, mais il n'y en a pas d'autre. Ça s'appelle comme ça. Et ça sert, on peut étiqueter tout ce qu'on a dans une cuisine. Mm-hmm. Donc, toutes les boîtes de conserve, les boîtes de céréales, n'importe quoi. Mais c'est à nous de les identifier avec quelqu'un qui est voyant, bien entendu. Et par la suite, bon, on a juste à repasser le fameux crayon et ça nous dit qu'est-ce qui est sous l'étiquette.
Mm-hmm. Ouais, c'est assez ingénieux, ça.
Oui, oui. Puis on peut toujours aussi avoir un pèse-aliment. Donc, si nous avons des recettes qui sont plus avec des poids, qu'avec des volumes, mm-hmm. ben, on peut peser à l'aide de cette petite balance-là qui est parlante et qui nous dit le poids de nos ingrédients.
Mm-hmm. Jean-Sylvain, quels seraient vos conseils pour des proches qui vivent avec quelqu'un qui a un handicap visuel afin d'adapter la cuisine? Je lisais, par exemple, que ça peut être une bonne idée de se dire, OK, on met la farine sur telle étagère et puis on met l'huile sur une autre étagère. Est-ce qu'on peut s'arranger de cette façon-là si un membre de notre famille, par exemple, vit avec un handicap ou une déficience visuelle?
Oui, oui. Avoir beaucoup d'ordre.
Mm-hmm.
Ça, c'est la première des choses. Comme ça, c'est plus facile pour quelqu'un qui a un trouble de la vision de se retrouver dans son garde-manger.
Ouais.
C'est intéressant quand la farine est en haut, à droite, toujours à la même place. C'est facilement repérable par la personne. On n'a pas besoin de voir, mais juste à sentir le contenant, ben on sait que c'est oui. la farine.
Oui.
Donc, il y a plein de petits trucs comme ça pour être plus fonctionnel.
Oui. Et autonome, bien sûr.
Ah oui, oui.
Andréane, vous parliez tout à l'heure de oser la santé qui favorise les saines habitudes de vie. Pour une personne qui vit avec un handicap, c'est tout aussi important d'avoir une saine alimentation, peut-être un petit peu plus difficile, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est notamment important pour ces personnes-là?
Bien, tout à fait. Mais en fait, c'est important, comme vous l'avez dit, c'est important pour tout le monde.
Évidemment.
Peu importe la condition. Donc, évidemment, c'est d'aller trouver, bon, des conseils, des trucs pour passer outre ça. Mais ça va être important, en fait, de trouver justement comme des astuces que j'avais en cuisine, par exemple, de planifier le menu à l'avance pour avoir justement les bons aliments au bon moment. De couper les aliments à l'avance également, ça peut être une bonne idée. D'utiliser des fines herbes pour, à place de mettre du sel, finalement, pour avoir une meilleure alimentation, de réduire la quantité de sucre également. Donc, des petits trucs comme ça. Puis, c'est important pour tout le monde, bon, pour combler les besoins nutritionnels, évidemment, pour favoriser aussi le maintenir un poids santé qui va prévenir énormément les maladies chroniques, finalement, puis renforcer aussi le système immunitaire, la qualité des os. Donc, il va y avoir beaucoup de raisons, mais c'est bon pour tout le monde, donc pas seulement...
Pour prévoir, bien sûr, ça passe par les courses. Jean-Sylvain, comment ça se passe, vos courses, votre marché, l'épicerie de votre côté?
Eh bien, moi, j'ai la chance de faire partie d'un programme gouvernemental qui est le programme DIMOS, qui me permet d'avoir quelqu'un pour venir avec moi faire mes courses et l'épicerie. Donc, il est certain que c'est moi qui fais ma liste d'épicerie. Mm-hmm. Et par la suite, ben, avec cette personne-là, nous partons et nous allons faire l'épicerie. Mais tout ce que la personne prend sur les tablettes avant d'être déposé dans le panier passe par mes mains.
Vous inspectez, voir si c'est la bonne chose.
C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, est-ce que c'est le bon format? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on le reconnaît? Mm-hmm. Si je le reconnais pas, ben je lui demande qu'est-ce qui est marqué sur l'étiquette? Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est là ben, qu'il n'y a pas d'erreur qui se produit et j'ai les articles que je veux.
Oui, parce que si vous ne le reconnaissez pas en épicerie, vous n'allez pas le reconnaître dans le garde-manger.
Absolument pas. Oui. Absolument pas. Puis rendu à la maison, ben, il est certain que là, c'est l'heure d'étiqueter tous mes produits. Mm-hmm. Donc, c'est plus facile avec quelqu'un qui est avec nous que quand on est complètement seul.
Mm-hmm. Jean-Sylvain, est-ce qu'on peut avoir une petite primeur à savoir quelles seront les recettes concoctées lors de l'atelier Cuisinons ensemble?
Ah oui, certain. On a une recette de poulet Mirador. C'est des poitrines de poulet cuites au four dans une sauce faite avec de la demi-glace, de la crème, des oignons, des champignons et le tout est cuit au four.
Ça a l'air assez appétissant.
Ah, c'est extrêmement bon. extrêmement bon. J'ai aussi une recette qu'on a fait de boulettes de viande qui peut servir à n'importe quoi. Donc, c'est des petites boulettes rondes là, que l'on fait cuire au four et c'est fait avec du bœuf haché, du porc haché, de la chair à saucisse italienne, des lardons de bacon et le tout est mélangé avec des œufs, cuit au four en petites boulettes 10 à 15 minutes et après ça, vous congelez le tout et vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle sauce, soit une sauce tomate, soit une sauce au bœuf.
C'est assez polyvalent comme recette, en effet. Jean-Sylvain. Alors là, vous ne voyez pas ici en studio Andréane Lemaire, mais elle salive en ce moment, Jean-Sylvain. L'atelier est offert par téléconférence sur une base hebdomadaire et à une durée de 4 semaines. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire?
Malheureusement, pour cet atelier-là, c'est complet, mais vous pouvez nous suivre en suivant les Incoflash que l'on distribue et s'inscrire à INCA pour la prochaine session.
Ou encore aller consulter le site cnib.ca. Jean-Sylvain McGreevy, vous vivez avec un handicap visuel. Vous êtes initiateur du projet Les ateliers Cuisinons ensemble. Et Andréane Lemaire, kinésiologue au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de semaine.
Merci beaucoup
à
vous.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Véronique Galland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice de Trottibus, une initiative de Société canadienne du cancer. Trottibus, c'est un autobus pédestre qui, beau temps de mauvais temps, prend la route là, pour accompagner les enfants jusqu'à l'école. Il y a combien de Trottibus un petit peu partout en province, Véronique?
En province, on est actuellement dans 65 écoles. Évidemment, il y en a plus. Il y a environ 90 écoles là, qui l'ont mis en place depuis nos débuts, donc depuis 2005. Mais actuellement, on a 65 écoles actives et d'autres qui sont présentement en développement pour le partir là, incessamment cet automne ou ce printemps.
De quel constat est venue cette initiative-là?
En fait, la Société canadienne du cancer s'est penchée sur une situation qui était plutôt alarmante là, à nos débuts, qui l'est encore aujourd'hui, qui est soit la prévalence de la sédentarité de nos jeunes. Mm-hmm. Donc, malheureusement, on sait que seulement 4 % des jeunes Canadiens sont suffisamment actifs et qu'ici au Québec, en fait, on parle d'un enfant, près d'un enfant sur quatre qui souffre d'embonpoint ou d'obésité.
Mm.
On sait que c'est des facteurs de risque de cancer. On sait que près de la moitié des cas de cancer pourraient être évités par l'adoption de certaines habitudes de vie et par la mise en place de politiques là, protégeant la santé des Canadiens. Donc, on sait que l'activité physique sur une base régulière peut avoir des impacts réels sur les risques de développer un cancer, soit colorectal ou un cancer du sein qui est le plus fréquent chez la femme. Et on sait aussi que, bon, évidemment, là, le surplus de poids est un important facteur de risque de cancer.
L'objectif est assez clair, faire bouger davantage les enfants pour une meilleure santé. Mais en même temps, Trottibus, ça répond à beaucoup de besoins qu'on ne pourrait pas soupçonner d'entrée de jeu. Je pense à favoriser des liens intergénérationnels, à briser l'isolement de parents aussi dans certains quartiers, notamment à Montréal. Je lisais qu'il y a certains enfants qui vont éviter d'aller à l'école lorsque la température ne le permet pas, mais Trottibus, ça motive en fait la participation aussi des enfants à aller à l'école. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits à l'initiative Trottibus.
Oui, effectivement. En fait, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas se le cacher. Pour un enfant, pour pouvoir avoir sa participation à un programme ou un projet, il faut qu'il y ait du plaisir. Donc, c'est le facteur numéro un. Pourquoi l'enfant va vouloir embarquer dans le Trottibus? C'est parce qu'il marche avec ses amis. C'est plaisant, on a du plaisir, on jase, puis ça crée un sentiment d'appartenance à un groupe aussi. Mais on sait aussi qu'il y a des avantages au niveau de la concentration. Donc, les 4 heures suivant l'activité physique qu'un enfant fait avant d'arriver en classe est grandement visible. On sait aussi que, bon, évidemment, là, que l'activité physique va aider là, à la santé du jeune, qui est un intérêt majeur pour le parent, mais il y a aussi tout le côté sécuritaire là, qui rentre en ligne de jeu là, pour ce qui est du parent. Là. Évidemment, le Trottibus va venir répondre là, à cette inquiétude du parent de laisser marcher son enfant seul vers l'école parce que c'est sécuritaire. Donc, il y a tous ces facteurs-là aussi qui viennent en ligne de compte. Puis le Trottibus vient aussi aider l'enfant à apprendre à devenir bon piéton, en fait. Comment on se place prudemment? Donc, toute cette notion d'information-là qui est très, très importante pour le parent. Mais comme on a des bénévoles sur les trajets qui accompagnent des enfants qui sont formés en sécurité routière, alors à ce moment-là, ces bénévoles-là ont comme mandat, en plus de tenir le groupe dans le plaisir et tout ça, puis de les amener jusqu'à l'école, mais de leur transmettre à ces jeunes-là toute l'information sur comment se déplacer de façon sécuritaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour le parent. Puis évidemment, ces bénévoles-là sont plus souvent qu'autrement, justement, des parents ou sinon c'est des gens de la communauté, mais qui reçoivent une formation sécurité routière qui a été bâtie par la Société canadienne du cancer et le SPVM.
Mm-hmm. Donc, juste du bon, vraiment, là, qui provient de Trottibus. Véronique, comment ça marche maintenant le trajet?
Ben, en fait, le trajet en soi, là, ça fonctionne de la même façon qu'un autobus scolaire. Okay? On s'entend, donc, c'est des trajets prédéterminés, des arrêts planifiés. Donc, le jeune va sortir de chez lui. Concrètement, là, il sort de chez lui le matin et il va faire comme s'il s'en allait prendre l'autobus. Il va se rendre à l'arrêt près de sa maison, près de sa résidence, et va voir, plutôt que de passer l'autobus scolaire, il va voir arriver des bénévoles accoutrés d'un dossard. Et là, ils vont embarquer dans le train. Et d'arrêt en arrêt, ils vont comme ça amasser plusieurs enfants et se rendre de façon active jusqu'à l'école plutôt que d'être assis passivement dans un autobus scolaire ou encore dans la voiture de maman ou papa.
Et ça, ça se fait été, automne, hiver, printemps. Là, c'est à l'année, trottibus. Ben, bien sûr, pas l'été quand les enfants sont en congé, mais qu'il neige, qu'il y ait du verglas, les enfants sortent.
Oui, bien effectivement, on dit que trottibus, c'est beau temps, mauvais temps. Donc, en fait, on s'est dit, il n'y a que de mauvais vêtements, pas de mauvaise température. Donc, effectivement, l'école, par contre, est son propre décideur dans tout ça. Donc, c'est-à-dire que plusieurs écoles vont décider de le porter à l'année longue, mais d'autres écoles vont souhaiter le faire seulement qu'à l'automne et au printemps. Donc, on va parler du mois de septembre jusqu'à décembre, puis certains vont recommencer le trottibus à partir du mois de mars ou avril jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais, somme toute, l'école prend cette décision à savoir si le trottibus doit marcher à longueur d'année ou pas. Tout est une question de disponibilité des bénévoles, disponibilité des enfants aussi, mais dans le sens où est-ce que le parent a l'intérêt de faire marcher son enfant à moins 15, moins 20 dans notre contexte ici au Québec, ou est-ce que les bénévoles aussi sont enclins à vouloir marcher comme ça à des froids, à des grands froids. Mm-hmm. Mais somme toute, c'est quelque chose de réalisable. Ça, c'est bien évident.
Véronique, en mai 2016, il y aura un événement afin de faire profiter trottibus à beaucoup de jeunes sur l'île de Montréal, notamment.
Oui, effectivement. En fait, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle Montréal physiquement active, où est-ce que plusieurs partenaires au niveau de saines habitudes de vie se rencontrent et ont décidé de mettre un plan d'action grâce à la Ville de Montréal et Québec en forme qui finance tout ça. Puis la Société canadienne du cancer propose à toutes les écoles primaires de Montréal qui désirent expérimenter l'expérience d'un trottibus, mais de le faire sur une semaine en mai 2016.
D'accord.
Donc, pour ce faire, en fait, ils ont simplement qu'à soumettre leur candidature. Ils peuvent le faire et ça, là, c'est en fait quelque chose qui peut être possible aussi à faire à grandeur de la province. Mais somme toute, là, il y a vraiment quelque chose à Montréal qui se passe officiellement en mai. Puis, évidemment, là, les écoles intéressées peuvent aller sur notre site Internet.
On les guidera. Oui, on les guidera à trottibus.ca parce que c'est un projet, je le disais tout à l'heure, extrêmement novateur. Très beau projet, trottibus. Véronique Galland, vous êtes coordonnatrice de ce projet. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Merci beaucoup, Marianne. Au revoir.
Eh bien, nous, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro, Christiane Campagna à la recherche. On vous souhaite de bien vous reposer, puis on se donne rendez-vous lundi, 14h. Bye-bye.